Bonjour à tous et à toutes. Ils étaient en effet tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. Que ceci veut dire ?» Cet étonnement des Israélites fait suite, vous le savez, à un événement qui vient de se produire à Jérusalem le jour de la fête des semaines. Et cet événement, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants en Christ rassemblés dans une même maison. Alors je n'ai pas la prétention ce matin de vous apporter des révélations sur la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, bien évidemment. Mais en ce jour de Pentecôte, je vous invite à voir ensemble ce que représente cet événement majeur, l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu que nous avons lue ce matin. L'accomplissement de la promesse de Dieu pour les croyants, comme le dit Pierre dans sa prédication que nous venons de lire. Alors je voudrais commencer par lire avant de commencer, aller plus loin, cet événement majeur de la venue du Saint-Esprit qui se trouve en acte 2, et nous lirons du verset 1 à 13, c'est-à-dire juste avant la prise de parole de Pierre. Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons !» Ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes Juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler de sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. » Alors ce passage que nous venons de lire se trouve dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres a pour objet, je dirais, de témoigner des événements qui se sont passés de l'ascension de Jésus jusqu'au ministère plein de l'apôtre Paul. Jésus est donc mort et ressuscité lors de la Pâque juive et va rester 40 jours au milieu des apôtres leur parlant des choses concernant le règne de Dieu. Jésus va recommander alors à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et au bout des 40 jours, Jésus est enlevé au ciel, et pendant 10 jours, les disciples de Jésus et ceux qui ont cru en son enseignement vont patiemment attendre l'accomplissement de cette promesse du Saint-Esprit. 10 jours passent. 10 jours passent après l'ascension de Jésus, le jour de la fête des semaines ou encore fête des moissons, fête juive, le Saint-Esprit est répandu sur les croyants. Cette fête des semaines a pris le nom de Pentecôte qui signifie, vous le savez certainement en grec, 50e, parce que cette grande fête juive se célébrait 50 jours après la Pâque. Et comme la fête de la Pâque est la fête des tabernacles, cette fête juive était la deuxième des trois grandes fêtes annuelles juives. Très importante, elle marquait à la fois la reconnaissance du peuple pour les bénédictions que Dieu avait accordées et le témoignage du peuple envers les plus pauvres. Il y avait donc pour cette occasion beaucoup de monde à Jérusalem et beaucoup de monde de tout horizon. C'est donc lors de cette fête d'action de grâce que le Saint-Esprit est répandu sur les croyants. Les croyants, justement, ils étaient tous rassemblés dans un même lieu. Ce lieu était peut-être la chambre haute où ils avaient l'habitude de se tenir pour prier, ou un autre lieu suffisamment grand pour qu'ils se trouvent tous rassemblés ce jour-là. En tout cas, Acte 2 nous donne une description vivante et puissante de ce qui se produit dans ce lieu le jour de la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit apparaît de manière spectaculaire, aussi bien dans sa manifestation visible que dans les effets qu'il produit sur les croyants. Cette manifestation se caractérise, et nous l'avons lu, par un bruit comme un vent impétueux et par des langues de feu. Et cette manifestation fait écho, on pourrait dire, aux différentes manifestations de Dieu que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous de la présence de Dieu au mont Horeb lorsque l'Éternel Dieu passe devant Élie. Lorsque l'Éternel Dieu passe devant Élie, un vent fort déchirait les montagnes. Ou encore lorsque l'ange de l'Éternel apparut à Moïse, il nous est dit que l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Au travers de cette description vivante que nous avons de la manifestation du Saint-Esprit, nous avons là le témoignage de la puissance de Dieu qui se révèle aux hommes. La puissance de Dieu qui se manifeste en ce jour de Pentecôte. En effet, l'Esprit vient de Dieu, l'Esprit vient d'en haut, se pose sur les croyants et remplit les croyants qui sont rassemblés. Tout Jérusalem est en effervescence en voyant ces Galiléens sans instruction parler différentes langues, asiatiques, certainement africaines, européennes, que les Juifs de la diaspora venus à Jérusalem pour fêter la fête sont en mesure de comprendre dans leur propre langue. Les Israélites présents savent bien qu'il s'est passé quelque chose. Certains se moquent, d'autres sont troublés, mais ils sont tous dans l'étonnement pour se dire « Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» L'effusion du Saint-Esprit ce jour-là est la convergence de deux choses. Tout d'abord, la promesse de Dieu d'envoyer son Saint-Esprit. Et la deuxième, c'est l'accomplissement de cette promesse par Jésus-Christ. La convergence de ces deux choses fait que ce jour-là, le Saint-Esprit est répandu sur les croyants. Le Saint-Esprit se manifeste sous forme de langue de feu qui se sépare et se pose sur chacun des croyants qui sont rassemblés dans cette maison. Jésus fait référence à cette promesse du don du Saint-Esprit, vous le savez, plusieurs fois, et notamment dans son discours d'adieu à ses disciples. Lorsqu'il dit en Jean 14 au verset 15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Cette promesse de Jésus s'accomplit aujourd'hui. Le Saint-Esprit sera en vous. Après la résurrection, Jésus reste avec ses disciples pendant 40 jours, les instruisant, nous l'avons vu tout à l'heure. Et Jésus va encore leur rappeler cette promesse, tout en leur recommandant de ne pas s'éloigner. Il leur dit en acte 1 au verset 4, « Ce que le Père vous avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Jésus rappelle, après sa résurrection, ce qu'il avait déjà annoncé à ses disciples auparavant, en rappelant cette fois-ci la prédication que Jean-Baptiste avait faite. En effet, Jean-Baptiste aussi avait annoncé cette venue de la même manière au début de son ministère. Il avait dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, Jésus-Christ, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » La venue du Saint-Esprit est donc déjà annoncée plusieurs fois, notamment dans le Nouveau Testament, au début du ministère de Jésus, à la fin de son œuvre et avant son enlèvement auprès du Père. Et à chaque fois, c'est une promesse que Jésus-Christ fait à ses disciples. Mais je voudrais souligner encore un point que Jésus dit en acte 1 au verset 4. Il dit, c'est aussi une promesse du Père. Il dit ce que le Père avait promis, ce que je vous ai dit. Vous savez, face à l'étonnement des Israélites présents, Pierre, accompagné des 11, se lève et prend la parole. Et dans sa prédication que nous vous avons lue, il apporte une description profonde, profondément ancrée de ce que représente cette promesse du Saint-Esprit. Pierre enracine cet événement tout d'abord dans l'Ancien Testament, en reprenant les paroles du prophète Joël, qui a vécu dans le royaume de Juda entre 810 et 750 ans avant la naissance de Jésus, c'est-à-dire 8 siècles avant les événements qui se produisent à ce moment-là. Il reprend les paroles même du prophète Joël et dit « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » L'apôtre Pierre reprend les paroles du prophète Joël pour les appliquer à l'événement qui se passe aujourd'hui sous leurs yeux. La venue du Saint-Esprit a été promise par Dieu bien des siècles auparavant, et nous sommes aujourd'hui au temps de la réalisation de cette promesse. Cette promesse fait partie même intégrante de la bénédiction voulue par Dieu pour les hommes. Et si vous vous rappelez la bénédiction que Dieu a voulu pour les hommes, il suffit de lire le fondement de l'alliance que Dieu a faite à Abraham. Dieu dit à Abraham en Genèse 12 au verset 2 et 3, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu avait déjà annoncé à Abraham par avance qu'une multitude serait au bénéfice de la même bénédiction accordée à Abraham à cause de sa foi. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, donne une explication de cette bénédiction. Il dit, et je vous invite à écouter en Galates 3, au verset 6 à 9, ce que nous dit l'apôtre Paul. Il dit, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez que ceux sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Et plus loin, au verset 14, il rajoute « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Afin que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'effusion du Saint-Esprit est intimement liée à cette promesse de Dieu faite pour tous les hommes. Paul affirme clairement que grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus, nous sommes rendus capables aujourd'hui de bénéficier de la même bénédiction faite par Dieu à Abraham et dont le contenu se trouve dans l'effusion du Saint-Esprit. Cette bénédiction trouve donc son accomplissement en Jésus-Christ et par Jésus-Christ pour celui qui croit. Et c'est le deuxième point de convergence. Cette promesse de Dieu annoncée se trouve accomplie par Jésus-Christ. Cette promesse de bénédiction avait été annoncée par avance dès l'alliance que Dieu avait fait à Abraham. Et elle est accomplie aujourd'hui, comme le dit Paul, elle se réalise par Christ et elle trouve son accomplissement en Christ. Le discours de Pierre, d'ailleurs, lie effectivement cette venue du Saint-Esprit à l'accomplissement du ministère de Jésus, à sa mort, à sa résurrection et à son exaltation. Pierre déclare, à partir des versets 22 à 36 que nous avons lus ce matin, qu'à la suite de son œuvre achevée, ce Jésus de Nazareth qu'ils ont cloué au bois et ressuscité des morts, et qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et qu'alors il l'a répandu. Si cela se produit maintenant, c'est que Jésus-Christ a achevé la mission que le Père lui avait assignée. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il ressuscite, il fallait qu'il soit élevé à la droite de Dieu, afin que le Saint-Esprit soit répandu sur ceux qui croient. Et de ce fait, Jésus-Christ se trouve être le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés et par lequel nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Pierre dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Cette venue du Saint-Esprit est donc fondée sur la convergence de deux choses qui se réunissent à ce moment-là, la promesse de bénédiction faite par Dieu le Père et l'accomplissement de cette promesse accomplie donc par Jésus-Christ. Il fallait que l'œuvre rédemptrice de Christ soit accomplie pour que le Saint-Esprit vienne comme Jésus lui-même l'avait annoncé à ses disciples. Il avait dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le salut a été accompli par Jésus-Christ, au moyen de sa mort et de sa résurrection. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il est rendu effectif par le Saint-Esprit qui est répandu pour ceux qui croient. De ce fait, si la venue du Saint-Esprit se trouve étroitement conditionnée à l'accomplissement de l'œuvre de Christ, le salut en Christ est nécessairement lui aussi lié à la réception du Saint-Esprit. Pour celui qui croit en Jésus, il répand sur lui son esprit. Celui qui place sa confiance en Jésus-Christ, il reçoit de lui son Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le Saint-Esprit est donc pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qui placent leur confiance en lui, qui le reconnaissent comme leur Sauveur et leur Seigneur. Et cette promesse ne concerne pas seulement un groupe restreint de personnes, mais comme Dieu l'avait annoncé à Abraham, les peuples de la terre. Et Pierre, d'ailleurs, dans son discours, dit que la promesse du Saint-Esprit ne se limite pas aux disciples qui sont présents, aux 120 croyants, ni même en cette génération-là, mais à tous ceux qui sont au loin. Pierre dit au verset 38 que nous avons lu encore, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Cette promesse que fait Pierre, ce rappel de cette promesse que fait Pierre, fait écho à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que les familles de la terre seraient bénies de la même bénédiction. Pierre dit, vous devez vous repentir, car cette promesse est pour tous ceux qui reconnaissent leur péché, quel qu'il soit, qui se reconnaît de Jésus-Christ, qui reconnaît en lui qu'il a tout accompli à la croix, qui reconnaissent qu'il est tout puissant pour les délivrer de leurs fautes et accorder le pardon des péchés. Celui-là, celle-là, est au bénéfice de la promesse de Dieu de recevoir le Saint-Esprit. Il nous est dit que ce jour-là, beaucoup de ceux qui entendirent la parole de Pierre, d'ailleurs ils ne disent pas les paroles de Pierre, mais la parole de Pierre, parce que la prédication de Pierre est une véritable unité de la vérité de la puissance de Dieu pour les hommes. Après avoir entendu la parole de Pierre, ils crurent et se firent baptiser. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est merveilleux. Quand on lit ces paroles, on aimerait qu'elles soient effectives toute l'année. Ce moment marque, mes frères et sœurs, le début de l'Église de Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, nous avons les prémices de l'Église de Jésus-Christ. Il nous est dit à partir du verset 42 qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Toutes ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont accepté le message de la parole de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est, je crois, le premier moment où on entend parler d'Église. À ce moment-là, à la suite de l'effusion du Saint-Esprit, nous avons là l'Église qui naît. Cette venue va donc marquer la naissance de l'Église de Jésus-Christ, qui par sa nature et sa forme va devenir le corps de Christ. Et l'Église naît donc de l'effusion du Saint-Esprit. Je voudrais vous rappeler ces paroles que nous avons lues tout à l'heure, au verset 4, écoutez bien. « Aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. » Le don de l'Esprit a été immédiatement suivi par le témoignage des apôtres et la proclamation publique de l'Évangile. Eux qui, durant des jours qui les séparaient de la Pentecôte, s'étaient retranchés dans le secret d'une chambre haute, à l'abri, voilà que tout à coup ils se mettent à parler à haute voix, dans toutes sortes de langues, de sorte que la multitude qui était présente les entendait parler dans leur langue, et je reprends les textes, des merveilles de Dieu. Ce qu'ils entendaient, ce n'était pas n'importe quoi. Ce qu'ils entendaient, ce n'était pas quelque chose qui était inaudible. C'était des merveilles de Dieu qu'il est question. Le Saint-Esprit leur donne de parler des merveilles de Dieu. Quel contraste spectaculaire! La puissance du Saint-Esprit a pour résultat l'annonce de la bonne nouvelle, la proclamation de l'Évangile, comme il est dit pour tous les habitants de la terre, et qui se trouve marquée ce jour-là par les quelques 3000 âmes qui se sont converties suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Depuis le jour de la Pentecôte, l'Église est investie d'une mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. La vocation de l'Église, sa fonction spécifique, ou je dirais première, est de proclamer la royauté de son Seigneur, et ce, par la puissance du Saint-Esprit. Relisons ces paroles de Jésus faites à ses disciples. Il dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Il fallait que le Saint-Esprit vienne afin qu'il rende témoignage de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend témoignage à nous de la vérité et qui nous donne donc la puissance à notre tour de rendre témoignage de la vérité. Jésus le dit en Jean 15. Il dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » L'Église de Jésus-Christ est née ce jour-là par l'effusion de l'Esprit, et la bonne nouvelle de l'Évangile sera portée par elle, par la puissance de l'Esprit. Les actes des apôtres sont remplis de la puissance et de la présence de l'Esprit qui permettait à cette Église de proclamer des merveilles de Dieu. Alors ce matin, je voudrais dire avec certitude que Dieu a formé pour l'homme une bénédiction que le monde ne connaît pas, une bénédiction qui n'est pas possible de connaître dans ce monde. Mais Dieu nous l'a révélée et Dieu l'a voulu et l'a rendue effective par Jésus-Christ, son Fils. Et cette bénédiction, Dieu la veut pour tous les hommes. Par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Par Jésus-Christ, nous avons le salut. Par Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit promis. Aucun homme, aucune organisation, aucun gouvernement, aucun État, aucune institution, aucune idéologie n'a formé pour chaque individu une telle promesse de bénédiction. Eh bien, cette bénédiction est pour chacun d'entre vous. Elle a été formée par Dieu et il souhaite que tous en soient au bénéfice. Alors si aujourd'hui vous êtes interpellés dans votre cœur comme les Israélites qui étaient présents ce jour-là, qui n'étaient certainement pas des enfants de cœur, mais qui ont été touchés ce jour-là par la parole de Pierre, parce que la parole de Pierre était la parole de la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Eh bien, si vous êtes touchés ce matin, ne retenez pas dans votre cœur cette promesse, parce que cette promesse, elle est pour vous. Elle a été formée à votre taille. Elle a été formée pour répondre à votre besoin. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour vos péchés. Et il est tout-puissant pour nous en délivrer. Je voudrais que nous terminions en passant juste un petit moment dans le silence, en nous remettant devant le Seigneur, en nous rappelant ces paroles qui nous sont données dans les actes que nous avons lus ce matin. Et sentez-vous libre d'ouvrir votre cœur à Jésus. Passons un petit moment en silence. Merci mon Dieu pour pour ce plan merveilleux, Seigneur, que tu as voulu pour tous les hommes. Nous étions perdus sans force, dans le péché, sans rien à nous. Et Seigneur Jésus, tu as voulu nous délivrer de l'état dans lequel nous étions. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie en rançon pour moi. Tu as donné ta vie en rançon pour tous. Et Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité. Et tu sièges à la droite du trône de Dieu. Tu répands sur tes enfants, Seigneur Jésus, ton Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, pour cette bénédiction. Merci, mon Dieu, et ce matin, ma prière, c'est que de mes frères et sœurs, des fleuves d'eau vive coulent. Et Seigneur Jésus, ce matin, je veux te prier, Seigneur, que le plus grand nombre soit au bénéfice de cette promesse. Amen.